la plupart des vitrines de bijouterie, enfin celles qu'on croise tous les jours, abritent un secret que très peu de gens connaissent en fait.
Ah, je crois voir de quoi vous parlez, le fameux secret des diamants.
C'est ça. Les diamants, ce symbole ultime de l'éternité et de la solidité, ils sont en fait en train de se transformer en graphite.
Oui, littéralement, la pierre précieuse se change lentement en mine de crayon.
Ce qui est quand même dingue. D'un point de vue purement thermodynamique, le diamant est instable à température et pression ambiante.
Tout à fait. C'est son état naturel de se dégrader.
Pourtant, il n'y a personne qui panique. Aucun bijoutier ne court souscrire une assurance contre la transformation de son stock.
Ben non, parce que la raison est simple. Cette réaction prend des milliards d'années.
Et c'est exactement là que la chimie révèle son vrai visage. Ce n'est pas seulement une liste d'ingrédients ou une question de ce qui se transforme.
C'est une question de temps.
Voilà, c'est une horloge invisible. Et la mission de notre discussion d'aujourd'hui, c'est de comprendre cette cinétique chimique. Comment on lit l'invisible, comment les scientifiques quantifient, prédisent et même manipulent la vitesse d'une réaction.
C'est un vaste programme, mais pour contrôler la vitesse, il faut d'abord savoir comment la définir mathématiquement.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Si j'observe une réaction chimique, chercher une vitesse moyenne entre le début et la fin, ça n'a pas beaucoup de sens, non ?
Non, ça masque tous les détails intéressants.
Bah oui, suivre l'évolution d'un réactif, c'est comme regarder le compteur de vitesse d'une voiture pendant un trajet Paris-Marseille. On ne veut pas juste la moyenne globale.
Exactement, on veut la vitesse à un instant T.
Voilà, la vitesse instantanée. Et en mathématiques, l'outil pour obtenir un taux de variation à un instant précis, c'est la dérivée.
C'est la dérivée de la concentration par rapport au temps, très rigoureusement.
D'accord.
Si l'on prend un produit qui se forme, on note sa vitesse volumique d'apparition V majuscule indice A. Mathématiquement, c'est D de P sur DT.
Donc, plus la concentration grimpe vite, plus cette dérivée grande.
C'est ça. Et donc, plus la vitesse d'apparition est élevée.
Jusque-là, la logique physique suit la logique mathématique. Mais j'imagine que ça se complique quand on regarde des réactifs.
Pourquoi dites-vous ça ?
Par définition, un réactif, ça se consomme. Sa concentration chute.
En effet.
Du coup, si on calcule la dérivée d'une valeur qui diminue, on va obtenir un résultat négatif. Sauf qu'une vitesse physique de moins 40, dans le monde réel, ça n'existe pas.
Non, on ne roule pas à reculons sur l'échelle de la cinétique.
C'est clair. Alors comment on fait ?
On ajoute simplement un signe moins devant la dérivée. Pour la disparition d'un réactif, la vitesse V indice D, c'est moins D de R sur DT.
Ah, on force le résultat à être positif en fait.
Voilà. La dérivée elle-même est négative, donc le signe moins supplémentaire vient annuler cette négativité. Une vitesse physique doit toujours être positive.
C'est une belle astuce algébrique, mais en pratique, quand on a une courbe sous les yeux, genre sur un graphique, on ne calcule pas des dérivées à l'œil nu.
Non, bien sûr. C'est là qu'on utilise la méthode des tangentes.
Les tangentes, c'est-à-dire ?
Sur une courbe de concentration en fonction du temps, la vitesse à un instant précis correspond au coefficient directeur, donc la pente de la tangente à la courbe, à cet instant.
D'accord, donc on trace une droite qui effleure la courbe.
C'est ça. Plus la droite est pentue, plus la réaction est rapide. Et pour un réactif qui disparaît, la courbe descend, la pente est négative.
Et bim, notre fameux signe moins intervient pour rendre ça positif.
Exactement, vous avez tout compris.
Super. Mais cette méthode graphique, elle fait penser à un truc. Sur ces courbes, la vitesse diminue avec le temps, non ?
Oui, la courbe s'aplatit au fil du temps.
Du coup, elle s'aplatit tellement qu'elle devient presque horizontale. Ce qui veut dire qu'il doit être super difficile de dire quand la réaction est totalement finie.
C'est même quasiment impossible expérimentalement. L'approche est asymptotique.
C'est un peu un fondu au noir infini, quoi. Alors comment on fait pour avoir un repère temporel fiable ?
On utilise ce qu'on appelle le temps de demi-réaction, qu'on note T indice 1/2.
Ah, le fameux T 1/2. Et là, j'ai une question un peu naïve. Si je comprends bien, le temps de demi-réaction, c'est tout simplement la moitié du temps total que dure la réaction.
Ah, attention, c'est le piège classique.
Ah bon ? C'est pas ça ?
Pas du tout. Le temps de demi-réaction n'a rien à voir avec la moitié du chronomètre.
Mais alors c'est quoi ?
C'est la date à laquelle l'avancement de la réaction a atteint la moitié de sa valeur finale.
D'accord.
Ou pour le dire autrement, c'est quand la moitié de la concentration initiale du réactif limitant a été consommée.
Ah, la fraction demi, elle s'applique à la matière, pas au temps en fait.
Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir que c'est un peu comme manger une pizza.
Une pizza ?
Oui, manger une pizza n'est pas linéaire. Manger la moitié des parts de la pizza ne prend pas la moitié du temps total du repas.
Bah oui, au début on a très faim, on enchaîne les parts.
Voilà. Et on ralentit au fur et à mesure qu'on a plus faim. La concentration des réactifs, c'est pareil. Elle baisse et ralentit la réaction naturellement.
C'est une super analogie. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si la baisse de concentration ralentit le processus, est-ce qu'on peut forcer les choses?
C'est-à-dire?
S'il y a moins de réactifs, est-ce qu'on peut utiliser des moyens extérieurs pour que la réaction aille plus vite quand même?
Bien sûr. C'est ce qu'on appelle jouer sur les facteurs cinétiques.
Genre la température ou la concentration initiale. Moi, je vois ça comme une piste de danse bondée.
Une piste de danse, racontez-moi.
Imaginez une piste avec plein de gens. Si on augmente la température, c'est comme si on mettait une musique beaucoup plus rapide. Les gens s'agitent, ils bougent plus vite.
D'accord, je vous suis.
Du coup, il y aura forcément plus de collisions entre les danseurs. Plus de collisions, donc plus de réactions.
C'est une image très juste. L'agitation thermique apporte de l'énergie cinétique. Et il faut que ces collisions soient assez violentes pour franchir ce qu'on appelle la barrière d'énergie d'activation.
La barrière d'énergie ?
Oui. Imaginez qu'il faille pousser un rocher au sommet d'une colline pour qu'il roule de l'autre côté. Sans élan, il redescend.
Et la chaleur, ça donne cet élan.
Exactement.
Mais alors, il y a un autre truc dont on entend souvent parler pour accélérer les choses. Le catalyseur.
Ah, le catalyseur. C'est différent.
Moi, je le vois comme une sorte d'entremetteur.
Un entremetteur, comment ça ?
Genre quelqu'un dans la soirée qui aide deux personnes à se rencontrer. Il facilite la discussion, et une fois que le courant passe, il s'en va pour aider un autre couple.
C'est une très belle métaphore. Le catalyseur participe activement, il accélère la réaction, mais il n'est pas consommé au bilan final. Il est régénéré.
Et pour reprendre votre image de la colline, lui, il ne donne pas d'élan, si.
Non, il creuse carrément un tunnel à travers la montagne. Le chemin est beaucoup plus facile.
Ah ouais, c'est génial ça. Et ils ont tous la même forme, ces catalyseurs ?
Non. Et si l'on relie ça à une vision plus globale, on peut distinguer trois grands types de catalyse.
La première, je crois que c'est la catalyse homogène, non ?
Tout à fait. Homogène, ça veut dire que le catalyseur est dans la même phase que les réactifs.
Donc liquide avec liquide, par exemple.
Oui. Un exemple classique, ce sont les ions cobalt-2 en solution, qui accélèrent l'oxydation de certains composés. Tout se passe de manière fluide dans un milieu unique.
Ok, ça c'est facile à imaginer. Et le deuxième type ?
Cela catalyse hétérogène.
Hétérogène, donc des phases différentes. Genre un solide dans un gaz ?
Exactement. Pensez au pot catalytique des voitures. On a un solide du platine ou du rhodium qui transforme les gaz d'échappement nocifs.
Attendez, mais comment un bout de métal solide peut accélérer une réaction entre des gaz qui volent autour ?
Les gaz viennent se fixer, s'adsorber sur la surface du métal. Les liaisons se fragilisent, la réaction se fait et les nouveaux gaz inoffensifs repartent.
Le solide sert juste de point de rendez-vous en fait. C'est fou.
C'est très efficace, mais la troisième catégorie est encore plus impressionnante.
C'est laquelle ?
La catalyse enzymatique. Là, on entre dans la biologie moléculaire.
Les enzymes ?
Comme pour la digestion.
Oui, comme l'amylase dans notre salive. Mais prenons un exemple plus extrême, la catalase.
La catalase ? Elle sert à quoi ?
C'est une macromolécule stupéfiante qui décompose le peroxyde d'hydrogène, l'eau oxygénée, qui est toxique pour nos cellules.
Et elle fait ça vite ?
Une seule molécule de catalase peut décomposer jusqu'à 40 millions de molécules de peroxyde d'hydrogène par seconde.
40 millions par seconde ?
Oui. C'est vertigineux.
Mais c'est plus de la chimie à ce niveau, c'est de la magie. Et en plus, un catalyseur est très sélectif. Il choisit spécifiquement la réaction à favoriser. Il ne fait pas ça avec n'importe quelle molécule.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond ? Parce que face à ce chaos de collisions, de température et d'enzymes à 40 millions de réactions par seconde,
oui.
Comment les chimistes font pour modéliser tout ça avec une précision mathématique parfaite ?
L'équation différentielle, moi, ça m'intimide complètement.
C'est vrai que le terme peut faire peur, mais en réalité, c'est très logique. On parle ici de la loi de vitesse d'ordre 1.
L'ordre 1. Moi, je tente une image, vous me dites si c'est bon.
Allez-y.
C'est comme un seau percé.
Un seau percé ?
Ouais. Plus il y a d'eau dans le seau, donc plus la concentration est forte, plus la pression est forte et plus l'eau coule vite par le trou.
C'est exact. Biralentit proportionnellement.
C'est une très bonne image. Cela soulève une question importante. Comment traduire cette proportionnalité en mathématiques ?
Eh bien, on pose une équation.
Voilà. L'équation du seau percé, en cinétique, c'est V indice D égale K fois la concentration de R.
Donc la vitesse est proportionnelle à la concentration restante.
Exactement. Mais rappelez-vous du début de notre discussion. On a dit que V indice D, c'était aussi moins la dérivée de R par rapport au temps.
Ah oui, moins dr sur dt.
Donc, on assemble les deux, ça donne d de r sur dt égale moins k fois la concentration de r. Et voilà votre équation différentielle.
C'est tout? Mais en fait, ça veut dire qu'on cherche une fonction qui est proportionnelle à sa propre dérivée en négatif?
C'est ça. Et vous connaissez une fonction mathématique qui fait ça?
L'exponentielle.
Bingo! La solution est une décroissance exponentielle. La concentration de R est égale à la concentration initiale multipliée par exponentielle de moins kt.
Ok, la courbe qui descend en s'aplatissant.
Mais visuellement, c'est super dur de prouver qu'une courbe est une vraie exponentielle juste en la regardant.
C'est pour ça que les chimistes ont une astuce élégante.
On linéarise.
On linéarise.
Oui, on prend le logarithme népérien de la concentration.
Et ça fait quoi?
Si l'on trace le logarithme népérien de la concentration en fonction du temps, la courbe se transforme en une ligne droite parfaite.
Non, juste une droite.
Une droite parfaite, dont la pente correspond à moins k. C'est comme ça qu'on vérifie graphiquement si une réaction est bien d'ordre 1.
C'est d'une beauté, Dra. Ça met tellement d'ordre dans le chaos microscopique. On a des molécules qui tapent dans tous les sens et on résume ça avec une droite parfaite.
La nature est bien faite. Et d'ailleurs, pour ces réactions spécifiques d'ordre 1, le temps de demi-réaction a une propriété très spéciale.
Laquelle?
Il ne dépend même plus de la quantité initiale. Il vaut simplement logarithme népérien de 2 divisé par k.
Attendez, ça veut dire que peu importe si j'ai 1 kg de réactif ou 1 g, ça mettra le même temps pour en consommer la moitié.
Exactement. C'est la signature de l'ordre 1.
C'est incroyable! En fait, la cinétique chimique permet vraiment de rendre le temps prévisible.
Tout à fait.
On utilise des tangentes pour la vitesse instantanée, le temps de demi-réaction pour borner l'infini, la puissance des catalyseurs pour tricher et l'élégance de la loi d'ordre 1 pour modéliser. C'est fou.
C'est une discipline magnifique. Et pour conclure, j'aimerais qu'on croise deux éléments qu'on a abordés aujourd'hui.
Allez-y, je vous écoute.
On a vu que la température comme facteur cinétique accélère les réactions.
Oui, la piste de danse.
Et on a vu que la survie de notre corps dépend d'enzymes ultra précises comme la catalase.
Les 40 millions par seconde, ouais.
Sachant tout cela, que se passe-t-il au niveau cinétique quand on a une très forte fièvre?
Ah, la température augmente, donc ça devrait accélérer le travail des enzymes.
Eh bien, c'est la grande question. Est-ce que cette belle mécanique biologique s'accélère à l'infini pour combattre la maladie? Ou est-ce que la chaleur risque de détruire la structure même de l'enzyme, brisant ainsi notre propre loi de vitesse?
Waouh! Si l'enzyme est détruite, le catalyseur disparaît. C'est le crash system. Garderont un simple comprimé se dissoudre dans l'eau ou une goutte de sang moussée avec de l'eau oxygénée.
Ils verront la cinétique à l'œuvre.
Exactement, l'horloge invisible. Eh bien, merci d'avoir partagé toute cette expertise, c'était passionnant.
Merci à vous.
Et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de la science.